Quelle est notre attitude vis-à-vis de la Bible? Sommes-nous fermement convaincus qu'elle est la parole de Dieu? Il arrive trop souvent aux hommes de réfuter l'autorité incontestable de la Bible. Mais pourquoi font-ils? Parce qu'ils préfèrent enseigner leurs propres croyances et leurs propres pratiques, basées principalement sur les traditions, les expériences et la raison humaine, en se laissant encore guider par des sensations ou des soi-disant révélations personnelles. Il est dès lors aisé de comprendre la raison pour laquelle on prétend ne pas pouvoir s'entendre en matière d'interprétation et de compréhension de la Bible. L'un des plus grands besoins de notre époque est le respect de l'autorité. La société actuelle éprouve, qu'elle le veuille ou non, la nécessité de voir les parents exercer leur autorité au sein du foyer. Sans les égards dus à leur autorité éprouvés au niveau de la cellule familiale, l'être humain ne pourra jamais ressentir une révérence, un respect profond pour l'autorité de son Dieu. Il s'agit d'une question rigoureusement fondamentale. La parole de Dieu est complète et subvient absolument à tous nos besoins en matière de directives spirituelles et de pratiques religieuses. Paul écrit à Timothée, toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité, nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée. Une fois l'autorité suprême de la Bible admise et acceptée comme base d'unité, deux principes fondamentaux doivent absolument guider notre croyance et notre compréhension de la parole de Dieu. Le premier est que je n'ai pas le droit de m'opposer à ce que le Nouveau Testament permet à mon frère de croire et de pratiquer. Le deuxième est qu'une autre personne n'a pas le droit de pratiquer ce qui n'est pas autorisé par les enseignements de Jésus-Christ. La parole de Dieu est donc le seul juge et la seule autorité permettant de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ces deux principes, s'ils étaient appliqués, interdiraient toute concession, toute reddition ou toute compromission en matière de vérité. Il n'existe pas dans la Bible le moindre semblant d'indication que Dieu accepte que nous utilisions un moyen terme à propos de sa volonté. Si tout le monde croyait à l'infaillibilité de la parole de Dieu, chacun se verrait littéralement forcé de suivre la même règle et par conséquent de tenir un même langage, ce qui exclurait toute possibilité de division spirituelle. Si quelqu'un avait le droit, d'après la Bible, de baptiser un enfant, il me serait interdit de m'opposer à lui, car le Saint-Esprit me dit d'avoir le même esprit et le même sentiment que lui. Si un prédicateur avait le droit, Bible en main, de dire « Acceptez tout simplement Jésus comme rédempteur et vous serez sauvés », je me ferais forcer de croire que la foi seule sauve, car j'aurais à l'esprit les paroles de Paul me disant d'être parfaitement uni avec lui dans un même esprit et dans un même sentiment. Mais appliquons maintenant le second principe fondamental d'unité à ces mêmes choses. Comme nous venons de le voir, personne n'a le droit de pratiquer ce qui n'est pas autorisé par les enseignements de Jésus-Christ et qui peut être réfuté à l'aide de ces mêmes enseignements. Cela revient à dire que je n'ai pas le droit de réfuter quelque chose que vous avez scripturairement toute latitude de faire. Mais l'Écriture donne-t-elle l'autorité à quelqu'un de baptiser un bébé? Dans la négative, cette personne ne peut procéder à un tel acte tout en prétendant être guidée par l'autorité et par la loi de Dieu. Je puis vous assurer que rien dans la Bible ne permet une semblable pratique. Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Christ dit bien celui qui croira. Par conséquent, les bébés incapables de croire ne sont pas soumis aux prescriptions de l'Évangile. Par ailleurs, je ne puis refuser à un prédicateur le droit de dire à un pécheur quelconque « Acceptez tout simplement Jésus comme rédempteur, vous serez sauvé ». Pour autant, bien sûr, que la Bible l'autorise à le faire. Mais est-ce le cas? Absolument pas. Rien ne permet d'envisager dans les Écritures l'ombre d'une possibilité d'un salut par la foi seule, loin de là. Chaque cas de conversion relaté dans le livre des Actes suivait un processus commun. L'Évangile était prêché, où les gens croyaient, se repentaient et obéissaient à Dieu en étant baptisés pour le pardon de leurs péchés. Acte chapitre 2 relate la toute première prédication d'un Jésus crucifié et ressuscité et quelles furent les conditions préalables à la rémission des péchés. Les gens entendirent la prédication de Pierre, ils crurent, se repentirent et furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lisez Acte chapitre 2, versets 22 à 47, et vous verrez par vous-même. Ce passage biblique raconte que Pierre prêcha l'Évangile et qu'ensuite ceux qui l'écoutaient eurent le cœur vivement touché et s'écrièrent « Hommes frères, que ferons-nous » Savez-vous ce que l'apôtre Pierre va leur répondre? Croyez-vous qu'il leur dit « Venez vous asseoir ici au premier rang et priez pour le pardon de vos péchés » ou bien « Acceptez Jésus comme sauveur personnel, vous serez sauvés » ou encore « Levez la main et nous prierons pour vous » Non. Non, ce n'est pas cela que Pierre répondit. Car il se laissait guider entièrement par l'Esprit Saint et non par l'opinion des hommes ou un esprit d'erreur. Il parle aux 3000 âmes qui l'entourent. Écoutez bien, c'est la Bible qui parle. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La difficulté en ce qui concerne la compréhension religieuse ne réside pas dans le fait que nous ne puissions pas comprendre la Bible de la même manière, mais le problème est que l'on professe ce qui n'est pas enseigné par Dieu dans la Bible. Les divisions existant dans le domaine religieux ne proviennent pas de ce que les Écritures enseignent, mais surtout de ce qu'elles n'enseignent pas. Les hommes ne pourront tomber d'accord que lorsqu'ils accepteront de se laisser entièrement guider par ce que la Bible dit. Lorsque des hommes et des femmes honnêtes et sincères n'admettent et ne pratiquent que ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, seule autorité réelle, alors, tous se mettent à utiliser le même langage et à se laisser diriger par un même esprit et un même sentiment. Tous les problèmes s'évanouissent comme par enchantement. Ce juste principe éliminera tous les credos et toutes les doctrines humaines en unissant tous les croyants à partir d'un seul credo et d'une seule doctrine émanant cette fois de Dieu dans la Bible et rien. La cause première de la division religieuse est la prétention qu'ont certains de vouloir modifier les Écritures en y substituant leurs propres inventions et innovations destinées à les rendre sans doute plus attrayantes, plus faciles à accepter, plus à la mode en un mot. Nombreux sont ceux qui défendent et établissent ce qui n'est pas enseigné au lieu de se contenter tout simplement de ce qui est autorisé et approuvé par le Dieu du ciel et de la terre. La doctrine biblique devrait servir à unifier la foi et les pratiques de tous. Ce qui n'est pas biblique ne mène que vers le chaos de la division avec tout ce qu'il comprend de bassement humain. Celui qui ajoute ne fût-ce qu'un petit point de doctrine à ce que le Fils de Dieu nous a destiné ou qui échange un tout petit peu ce que Dieu ordonne en ce qui concerne le culte et la manière de servir l'Éternel est un promoteur de division et détruit l'unité du corps de Christ. Il tombe sous la colère de Dieu. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Êtes-vous prêt à croire que Jésus vous jugera au dernier jour en utilisant sa seule parole comme critère? Le Seigneur émaille cette vérité d'une manière particulièrement saisissante lorsqu'il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront dans ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Non, vous ne pouvez vraiment pas